La pédophilie, selon la classification de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi selon le livre diagnostique qu'on appelle le DSM-4 de l'Association américaine psychiatrique, fait partie de ce qu'on appelle les troubles de la différence sexuelle. Donc ces troubles sont différents des troubles de l'identité sexuelle. Un trouble, c'est d'abord un dysfonctionnement comportemental, psychologique ou biologique, d'un individu. Il s'agit en fin de compte de la focalisation sexuelle sur un enfant non pubère. Alors ça passe chez l'abuseur par la présence de fantasmes excitants, de pulsions sexuelles fortes, et doit aussi survenir sur une période répétée et intense, et doit aussi impliquer donc une activité sexuelle avec un mineur de moins de 13 ans. La pédophilie peut être de différents types, et il y a deux types principaux, soit exclusifs, c'est-à-dire uniquement orientés vers les enfants, ou non exclusifs, qui coexistent aussi avec une activité sexuelle avec des adultes.
Père Joulin, la pédophilie est-elle une pathologie réservée aux hommes ou concerne-t-elle aussi les femmes ?
La pédophilie, c'est un trouble qui est plus fréquent chez les hommes, mais qui existe aussi chez les femmes. Mais il est de manière beaucoup plus massive chez les hommes.
La pédophilie est-elle une pathologie à tendance hétérosexuelle ou homosexuelle ?
La pédophilie, ce n'est pas premièrement un trouble d'une orientation hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est un trouble de la différence sexuelle. C'est-à-dire, c'est un trouble qui veut faire sauter en éclat la différence des âges, et non pas tellement la différence de sexe. Et c'est peut-être une des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas bien aujourd'hui. Dans ce cas précis, c'est une transgression grave des différences de génération, et non pas de l'identité sexuelle en tant que telle. Vous avez des pédophiles qui ont des prédilections pour des garçons, d'autres pour des filles, et d'autres pour les uns et les autres, mais qui peuvent en même temps aussi avoir des relations avec des adultes qui sont de type non exclusif, ou uniquement avec des enfants, alors soit des garçons, soit des filles, soit les deux.
Est-il légitime de faire la distinction entre plusieurs formes de pédophilie selon qu'elles touchent des enfants prépubères ou des adolescents ?
Cela va dépendre en fin de compte de qui on parle et pourquoi, parce que le champ sémantique va être important. Si ce sont des psys qui parlent de ce genre de troubles entre eux, les étiquettes cliniques vont être importantes. Alors on va parler de pédophilie, on va parler d'éphébophilie pour l'attirance sexuelle pour des garçons pubères, on va parler d'ébéphilie pour l'attirance sexuelle pour des filles pubères, mais dans ce champ sémantique spécifique à la clinique, c'est une utilisation qui est là pour aider à clarifier des parcours de troubles chez les abuseurs et permettre de trouver les réponses les plus adaptées à un traitement clinique. Ce vocabulaire, quand il est sorti de ce contexte-là, peut être réinvesti de tout à fait un autre sens. En droit, dans beaucoup de pays, en France par exemple, on va pas parler de pédophilie ou d'autre chose, on va parler d'abus sexuels sur mineurs de 15 ans. C'est-à-dire la loi fixe la majorité sexuelle d'un enfant à 15 ans. Elle va pas prendre de distinction entre quelqu'un qui aura une relation sexuelle avec un mineur qui a de 13 à 15 ans, qui serait pour un clinicien plutôt un éphébophile ou un ébéphile. Pour la loi française, par exemple, ça va être un abus sexuel sur un mineur de 15 ans. Point barre. Alors, il faut savoir ce que l'on veut faire avec les mots, de quoi on veut parler, mais il y a des distinctions qui existent, mais elles sont principalement cliniques et elles permettent de mieux comprendre les mécanismes de ces troubles.
La pédophilie est-elle une pathologie réservée aux membres de catégories socioprofessionnelles qui sont plus facilement en contact avec les mineurs ?
C'est sûr qu'il y a plus de chances de trouver des pédophiles dans des maternelles que dans des maisons de retraite. C'est sûr que toutes les professions qui ont un contact privilégié avec les mineurs vont être des professions dans lesquelles il faut exercer une vigilance particulière parce qu'elles sont à risque d'être infiltrées par des personnes présentant ce genre de troubles. Mais la majorité des abus sexuels sur mineurs sont commis dans le milieu familial. Et à ce niveau-là, on peut dire que les abus sexuels sur mineurs traversent toutes les époques, toutes les classes sociales, toutes les différences de sexe, tous les milieux socio-professionnels. Donc, une personne qui va souffrir de troubles pédophiles vont choisir, alors de manière consciente ou inconsciente, hein, ça dépend des cas, des métiers qui vont les rapprocher de leur proie de prédilection que sont les enfants. Mais pour beaucoup d'autres, il va s'agir plutôt d'une histoire de circonstances et d'environnement social, par exemple. Donc, je crois que ce qu'il faut garder comme principe en tête, c'est que la pédophilie touche toutes les époques et peut toucher toutes les classes sociales, tous les métiers, tous les âges, aussi bien les hommes que les femmes, mais les milieux où il y a un contact avec les enfants de par une tutelle sont des milieux qui sont plus à risque, bien sûr.
La pédophilie est-elle plus fréquente chez les prêtres que dans d'autres catégories professionnelles?
Alors là, je vais être très clair là-dessus, parce qu'il me semble que l'absence totale de statistiques fiables sur cette question ne permet que de faire des spéculations. Et c'est un grave problème aujourd'hui, parce que l'Église catholique, en fin de compte, paye un peu les pots cassés de son administration, parce que c'est la seule institution au monde qui peut dire, ou dont on peut dire, voilà, il y a eu autant de cas de tel type, dans tel pays, de tel groupe d'âge. Aucune autre institution n'a fait ce travail. Donc dire qu'il y en a plus ici, dans l'Église, est de l'ordre aujourd'hui du charlatanisme et n'a aucune base scientifique.
Selon vous, Père Joulin, qu'apportera cette crise à l'Église et au monde ?
Moi, je garde confiance qu'à travers cette crise, toutes les horreurs qu'ont subies les victimes vont pouvoir être entendues, reconnues, réparées dans la mesure du possible, et que par ce fait, les victimes vont aller mieux. Ça, c'est pour moi une conviction et je crois que ça doit être notre premier souci. Deuxièmement, je pense que l'Église deviendra, de par ce fait, un lieu plus sûr. On peut prendre par exemple aux États-Unis. Le nombre d'affaires de pédophilie a drastiquement diminué depuis que l'Église s'est saisie de toutes ces affaires, a mis en place une charte de protection des mineurs. Alors ça a profondément modifié la manière dont on fait du ministère. Mais d'un autre côté, voilà, on a une Église qui est en passe de devenir vraiment un lieu sûr pour les enfants et pour les mineurs. Je pense qu'avec le temps, elle va redevenir un signe de la présence du royaume. Mais c'est un chemin qui va être long, qui va être douloureux. C'est peut-être un chemin qui est une croix aussi que l'on doit porter et traverser. Et que les paroles du Christ qui résonnent dans l'Évangile, « Malheur à celui qui fait du mal à un de mes petits », résonnent dans l'Église de manière forte. Et qu'on réalise que ces personnes qui ont été victimes, ces personnes qui ont été victimes, sont des enfants de Dieu, sont ses frères du Christ. Et ont besoin de toute la miséricorde, toute l'attention que l'Église peut leur offrir au nom de Jésus-Christ.